Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah. 19h, c'est l'heure. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Guillaume Bigot a quelques petites minutes de retard à cause du trafic parisien avec les JO. Et il y a un mousquetaire qui a voulu prendre sa place. Vous n'êtes pas encore mousquetaire, hein. Vous avez encore du... Hein.
Je commence.
Allez. C'est un jour.
Allez, les infos du soir. Les infos du soir avec Simon.
Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous, chers téléspectateurs. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord cet après-midi. Près de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans tabassé à mort le 16 avril dernier. Et aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Un troisième mineur a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Après la mort hier de 5 migrants dans la Manche, 3 personnes ont été interpellées au Royaume-Uni. Il s'agit de 3 Soudanais âgés de 19 à 22 ans qui sont soupçonnés d'avoir facilité l'immigration clandestine et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni. Et puis, plan social d'ampleur chez Casino, l'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté aujourd'hui prévoit la suppression de près de 1300 postes. C'est le plus grand plan social depuis le début de l'année en France, chère Christine.
Merci mon cher Simon. Restez encore un petit peu avec nous. Et au sommaire ce soir, à un peu plus d'un mois des élections européennes, quel est cet appel de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne, à lire dans Le Figaro, l'édito de Mathieu Bock-Côté. Vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales pour les européennes. Le vote s'est-il cristallisé? L'abstention ciblée par certains partis peut-elle faire bouger les lignes d'ici le scrutin? Le décryptage de Guillaume Bigot lorsqu'il arrive. Non au séparatisme dans le sport. Le préfet de l'Hérault a décidé de retirer l'agrément du club de foot amateur 7 Olympic Football Club. Il arborait le croissant et l'étoile de l'islam sur son logo, logo changé depuis. Certains crient au racisme d'État. Le regard de Marc Menant. Où est la maman ? 4 mots de Marion Maréchal. Un tweet à près de 6 millions de vues qui fait polémique. La tête de liste Reconquête aux Européennes interroge un styliste français et son époux, parents de jumelles. D'un côté, Marion Maréchal est accusée de haine et d'homophobie. De l'autre, beaucoup rappellent que la GPA est interdite en France. La haine ou la loi? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis le nouveau président de l'Argentine a surpris hier. Il a annoncé que pour la première fois depuis 2008, le pays présente un surplus budgétaire. Javier Milei arrivé en fin d'année au pouvoir, a-t-il déjà gagné son pari? Et puis la France peut-elle en tirer quelques leçons? Leçons d'austérité. L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, un intrus, mais on verra.
Guillaume Bigot, la place est chaude.
Oui, Guillaume Bigot est sur la voie. Allez, c'est parti. Alors, Simon Guélin, il tremble un peu. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous interroger.
Moi, je suis bien à côté de M. Bock-Côté.
Mon ami squatteur.
Gardez la place.
C'est au moment de... Vous savez, l'acteur principal n'est pas là. Oui. C'est pour faire les réglages lumière.
Ah oui.
Ça va être dur de retourner à ma place.
Non, mais restez là. On attend Guillaume Bigot. Restez là. Voilà. Faites toujours l'acteur, la doublure lumière. Et on attend Guillaume Bigot. Ça ne nous empêche pas de commencer. Alors... Mathieu Bock-Côté, vous avez promis de m'épater ce soir avec ce sujet.
J'ai promis d'essayer.
Non, vous m'avez promis de m'épater.
D'accord.
Donc vous avez intérêt à m'épater, à tout m'expliquer. Les élections européennes de 2024 seront-elles les dernières où la souveraineté française voudra encore dire quelque chose? Ces élections européennes seront-elles les plus importantes de toute notre histoire? Ces questions peuvent sembler décalées, pourtant certains de nos plus grands intellectuels les posent dans une tribune parue dans Le Figaro aujourd'hui. S'agirait-il des élections de la dernière chance, mon cher Mathieu ?
parmi les plus grands intellectuels français. Parmi ceux-là, je prends la peine de le dire, Marcel Gauchet. Marcel Gauchet qui est tout sauf un excité. Marcel Gauchet qui est probablement un des plus grands intellectuels français aujourd'hui, qui signe cette tribune avec d'autres. Et ça vaut la peine de le mentionner pour montrer à quel niveau nous nous situons de préoccupation. Alors, de quoi s'agit-il dans cette tribune? D'un appel lancé par des gens de toute tendance. Il y a Arnaud Montebourg aussi, par exemple. Il y en a notre ami Bigot qui en fait partie. Donc, ils sont nombreux à signer cette tribune qui dit la chose suivante. En ce moment, les élections européennes passent à côté de leur objet. Elles passent à côté de leur objet. Pourquoi? Parce qu'au cœur de la vie politique européenne en ce moment, il y a un projet qui se présente, même pas masqué. Il y a un projet qui est avancé, il y a un projet qui est soutenu par plusieurs et dont on ne débat pas. Ce projet, c'est celui d'une fédéralisation explicite de l'Europe, c'est celui d'une extension aussi explicite de l'Europe, c'est la transformation de l'Europe en système fédéral. Donc théoriquement, c'est des élections européennes, on devrait en parler, or on n'en parle pas du tout, pour ne pas dire en fait que le sujet est occulté, comme si on ne veut pas en parler, finalement. Alors, que nous disent ces signataires et ensuite, de quoi parlons-nous concrètement? Ils nous disent, je cite, hein, c'est des phrases importantes, « L'Union européenne a dérivé vers une supranationalité écrasante qui justifie l'extension sans limite d'un système autoritaire. Ils présentent l'Union européenne comme une prison des peuples, avec des dogmes aveugles qu'il est interdit d'interroger. » Ils ajoutent, et c'est très important, il y a un déficit démocratique, nous disent-ils, et dans les faits, dès aujourd'hui, le système fédéral existe déjà. Il n'est pas complété, il n'est pas parachevé, mais aujourd'hui, nous vivons en Europe dans un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Et ce que disent les auteurs, les 50 signataires de cette lettre, c'est que la souveraineté européenne, ce n'est pas le projet tardif et lointain d'Emmanuel Macron. C'est ce qui existe déjà en ce moment. Donc la question, les européistes, les partisans d'une Europe fédérale militante, ils veulent faire le dernier grand bond en avant, mais ils sont déjà très engagés dans leur projet. De quoi parlons-nous, donc, de ce projet qui pourrait aller plus loin, de ce grand bond fédéral revendiqué? C'est sur le rapport Verhofstadt. Le rapport Verhofstadt, c'est un homme politique belge, flamand, si je ne me trompe pas, donc, et c'est un ardent fédéraliste au sein des institutions européennes. Et lui, il milite depuis longtemps pour que l'Europe, en fait, on pourrait dire, se transforme en giga-Belgique. C'est-à-dire un système fédéral, non-national, post-national. Et il a porté ce rapport, donc, dont l'objectif, en gros, je résume les grands éléments, légitimer les référendums pan-européens, faire perdre à la France, puisqu'on va parler très concrètement, son droit de veto en matière, au moment de l'utilisation des forces armées. Imaginons qu'on décide de faire une opération militaire, eh bien, c'est l'Europe qui déciderait et la France pourrait voter contre, mais elle n'aurait plus de droit de veto sur ces questions-là. Donc c'est la perte de la souveraineté militaire, c'est la perte de la souveraineté budgétaire, c'est la promesse à terme d'une mutualisation des dettes européennes. Et ce projet, bon, c'est quand même assez vaste, on comprend que c'est un changement de régime européen, il est très avancé. Or, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Je veux dire, théoriquement, ça devrait être un sujet de préoccupation. Le texte a été voté, déjà. Il a été voté comme une proposition, comme une motion qui n'engage pas, cela dit. C'est une résolution le 22 novembre dernier. Qui a voté pour ce projet? Renaissance, les socialistes, Europe Écologie Les Verts. Qui s'y est opposé? Le RN, Reconquête, LR et LFI. Donc, on voit, il y a une opposition, mais l'opposition n'a pas réussi à l'emporter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, est-ce qu'on peut dire c'est une résolution, c'était voté? Est-ce que ça change déjà tout? Non, c'est une résolution non contraignante. Donc là, je regardais aujourd'hui, je cherchais, je me disais, où en sommes-nous avec ça? Mm-hmm. Et il a fallu que, comme je disais à la blague, j'ai fait ma charlotte, c'est-à-dire j'ai multiplié les coups de fil pendant la journée pour être capable de comprendre ce dont il en était. Or, qu'est-ce qu'on voit?
Expliquez-nous.
C'est que c'est un projet flottant en ce moment. La résolution a été votée, elle traîne dans le paysage, mais pour l'instant, elle est suspendue. Pour l'instant, on la laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'on sait que les peuples européens ne souhaitent pas du tout ce virage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse de côté le projet et on attend pour le ressortir quand les circonstances vont le permettre.
Un peu à la Mercosur.
Si vous souvenez, mais là, on est dans une étape de plus. C'est-à-dire que là, c'est une perte définitive de souveraineté. Il faut bien comprendre dont on parle. C'est assez majeur. Or, à quel moment ça pourrait ressortir? On regarde ça. Probablement au moment d'une présidence européenne qui serait sensible à ce projet fédéraliste. Alors, 2024, qui est la présidence européenne, c'est la Belgique. Première partie, ensuite c'est la Hongrie. On devine que le projet fédéraliste européen ne sera pas remis de l'avant dans la deuxième partie de l'année 2024. En 2025, première partie de l'année, la Pologne. Deuxième partie, le Danemark. Ce ne sont pas les plus européistes, bien qu'en Pologne, en ce moment, ça change un peu. 2026, Chypre et l'Irlande. Moi, je suis de ceux qui disent en 2026, ce projet risque de nous être ressorti à ce moment. On va être à la veille de la présidentielle française, soit dit en passant. Et à ce moment, le projet de fédéralisation explicite de l'Europe, qui implique, je le redis, c'est un changement des traités, une perte de souveraineté définitive pour la France sur des questions qui relèvent du régalien et du vital, de l'intérêt national vital, à ce moment, ça risque d'être présenté. Oui, il y a un effet de cliquet dans la construction européenne, on ne doit pas se tromper. Il y a toujours un pas de plus qui est fait et on ne peut jamais revenir en arrière. Donc vous faites un pas et un autre, au point même où aujourd'hui, vous le noterez, les souverainistes, hein, le RN, Reconquête et ainsi de suite en France, sont obligés, ils ne peuvent plus se contenter de dire « il faut stopper l'Europe ». Ils sont obligés de se demander « qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe qu'on nous a construite » en se demandant si on peut la déconstruire un peu. Mais l'Europe engage déjà même ceux qui voudraient y résister. Et pour les européistes, dans les faits, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui de mes nombreux appels charlottiens, on nous dit à peu près tous la même chose. Ils guettent la prochaine crise, ils guettent le prochain moment, ils guettent la prochaine Ukraine, la prochaine COVID, le prochain grand événement qui justifierait ensuite ce grand saut fédéral. La procédure de modification des traités est fort complexe. Ça, ça vaut la peine de le dire. Donc, ça se fait pas simplement.
Toujours.
Cela dit, l'adhésion possible, soit de l'Ukraine, soit de la Moldavie, soit d'autres États à l'Union européenne, pourrait être le prétexte d'une accélération de cette réforme des traités. Donc tout ça, c'est très concret. Tout ça, ça pourrait être au cœur de l'élection européenne. Les signataires, les 50 aujourd'hui, nous disent « la France est déjà engagée dans un système autoritaire où elle a perdu sa souveraineté ». Tout ça pourrait aller plus loin. De quoi parle-t-on pendant ces européennes? Du fait qu'il faut faire un vote sanction du président de la République, on parle de Gaza, on parle de toute autre chose, mais on parle pas de ça.
On dit souvent, Mathieu Bock-Côté, que l'européisme est la seule conviction profonde du président de la République. Ne peut-on pas reconnaître que sur cette question, il joue à visière levée?
Et vous avez raison, tout à fait raison, il joue à visière levée. Et j'en entends plusieurs dire, Emmanuel Macron a échoué. Globalement, il a échoué, on fait le bilan de son mandat. Si on se place du point de vue du président de la République, il a tout à fait réussi. Son souhait, au jour 1 de son mandat, c'est d'arrimer le plus possible la France à l'Europe fédérale pour faire en sorte d'enclencher une dynamique qui, à son terme, fera que la France ne pourrait plus s'en sortir. Elle ne pourrait plus s'en dégager. Du point de vue d'Emmanuel Macron, la France est beaucoup plus européenne et beaucoup plus européiste aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 7 ans. Ah oui?
Alors, excusez-moi, il se passe quelque chose. Simon Guillain, merci beaucoup d'avoir fait la place.
C'est à contre-cœur que je rends la place de Guillaume.
Ah oui, oui, voilà. On sait bien. Guillaume Bigot, vous n'êtes pas obligé de venir la prochaine fois.
Non, mais voilà. Merci, Simon Guillain.
Merci, mon cher Simon. Merci
et je vous prie
beaucoup.
M'excuser, ainsi que nos téléspectateurs.
Ça
roule la parfaitement bien. C'est une ville propre.
Par la Seine. Bah oui.
Ça, c'est une idée.
Une idée, voilà.
Merci.
J'ai un petit gilet de sauvetage pour vous. On est en train de parler de vous, justement, du sujet dont parler ce matin, nous pourrions pas. Oui, on pourrait parler
l'émission. Pour nommer, alors.
Oui. Alors, parfait. On était en train de parler de cet appel. Vous avez signé cet appel des personnalités. Et on parlait d'Emmanuel Macron et vous nous disiez à quel point il a réussi en fait son pari au niveau de l'Europe.
Européanisé au sens de l'Union européenne pour la France, mm-hmm. Mais c'est réussi. De son point de vue, il peut quitter en se disant dans quelques années, j'aurai réussi à faire un pas définitif, de son point de vue, dans la fédéralisation de l'Europe. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand on regarde l'écart entre ce projet, qui est un projet de radicalisation de l'Europe par la réforme des traités, et de l'autre côté, l'état de la conscience des peuples, là, on est devant un grand écart. Donc, je donne quelques exemples. Les tensions entre les différentes régions de l'Europe en matière de politique étrangère aujourd'hui. On l'a vu au moment du pacte européen sur l'immigration. Est-ce que l'Europe, une, existe sur ces questions? Pas du tout. Les tensions entre l'idéologie officielle de l'Europe, une forme de multiculturalisme, de post-nationalisme, d'esprit bureaucratique, de socialisme qui ne dit pas son nom, et de l'autre côté, des nations qui disent « mais on veut faire nos propres choix ». Nous voulons faire nos propres choix, et qu'est-ce qu'on voit? C'est la doctrine de la souveraineté limitée, d'inspiration brejnevienne qui est appliquée aujourd'hui aux nations européennes en disant « non, vous ne pouvez pas ». Votre souveraineté est limitée par ce que Juncker appelait les traités, est limitée par le projet européen tel qu'il doit se construire et dans la direction qui est privilégiée. Si vous voulez sortir de ça, votre droit démocratique se limite. Les tensions aussi entre la technocratie et la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, et la crise des agriculteurs, si je peux me permettre, le radicalisme vert, le radicalisme écologiste qui est au cœur de l'Europe, provoque aussi de vraies tensions avec les pays. Donc vous avez un écart majeur entre un projet et les populations. Si on est devant des démocrates au sommet, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah, il faut tenir compte quand même de ce que veut la population. Il faut chercher à comprendre ce que veulent les peuples. Si on est devant un empire idéologique à tentation autoritaire, comme nous disent les 50 signataires dont on parlait, eh bien, l'idée, c'est ensuite de radicaliser le projet européen. Moins les peuples en veulent, plus il faut l'imposer. Et c'est à ce moment-là qu'on réussit à faire un effet de synthèse avec plein de choses dont on a parlé ces derniers mois ici. La résolution sur la conscience historique européenne, qui demande au système d'éducation nationaux d'enseigner une conscience nationale supranationale ou européenne plutôt que nationale. La fin du droit de veto dont on a parlé. Autrement dit, la France ne serait plus un État souverain, ce serait une province, un État américain. Le président ne serait plus qu'un gouverneur et le vrai maître serait ailleurs. Le vote à majorité plus largement, les transferts de souveraineté et de ce point de vue, la crise ukrainienne peut être éclairante.
L'arme nucléaire.
Ah ben oui, l'arme nucléaire, ça c'est l'ardeur française de partager l'élément central. Eh bien, on va l'offrir, hein, une espèce de gage qu'on va offrir à l'européiste pour montrer à quel point nous sommes ardemment européistes. Là, c'est un calcul comme un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est l'Ukraine aussi là-dedans. C'est-à-dire, l'Ukraine, c'est une cause en tant que telle, mais ce qu'on constate, c'est pour une bonne partie de l'élite européiste, c'est l'occasion de justifier une accélération, encore une fois, de la fédéralisation militaire, cette fois. C'est une occasion de dire il faut une souveraineté européenne, il faut une politique étrangère européenne, il faut arrimer toujours plus la France à l'OTAN d'une manière ou de l'autre, parce que ces deux logiques s'emboîtent. Et c'est comme ça que je comprends un peu le changement de position d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine entre le jour 1 et aujourd'hui. Au tout début, il y avait la réaction très française, la France, puissance d'équilibre, la France qui va chercher à équilibrer les éléments les uns les autres. Ensuite, il s'est dit, mais c'est l'occasion, en fait, cette crise, tout comme la COVID, c'est une occasion de pousser toujours plus loin l'Europe intégrée et unie. Et dès lors, l'Ukraine est devenue la grande cause européenne pour construire un peu plus la souveraineté européenne, qui, je le redis, existe déjà, sans peuple européen, mais là, c'est un autre problème.
Dernière question, Mathieu Bocoté. La question de l'Europe et de l'immigration se croise. Inévitablement, on parlait hier de la loi britannique sur le refoulement des migrants. De quelle manière entre-t-elle en contradiction avec ce que devient l'Europe?
C'est absolument passionnant. Moi, j'ai regardé ça depuis hier. On en a parlé ici, hein, la stratégie rwandaise des Britanniques. Et là, c'est le scandale dans la Macronie notamment, mais pas seulement dans tout l'extrême centre européen. C'est le scandale dans la gauche aussi. On a vu la une de Libé aujourd'hui. C'est la stratégie pour faire peur. Hein. Ils ont sorti la rhétorique morale. Honte, gêne, comment osez-vous? Tout ça, la honte. Ils savent pas faire d'autre chose que dire la honte. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de la Macronie. Notamment, je cite ici Olga Givernet, qui est une porte-parole de Renaissance. Je résume son propos. C'était sur une autre chaîne info hier, où elle explique ainsi, en inversant complètement la réalité, la stratégie britannique. Elle dit, les Britanniques ont fait le choix du Brexit. Donc, ils sont obligés de trouver des stratégies extérieures à la politique au pacte sur l'immigration. Ils sont donc obligés de miser sur une stratégie du refoulement. Ils sont donc obligés de faire un plein usage de la souveraineté nationale. Pauvres eux, en sortant de l'Europe, ils ont été obligés de se donner les moyens de cette politique, c'est-à-dire la politique du refoulement version Rwanda. Donc, on inverse complètement. On fait comme s'ils subissaient une punition alors qu'ils se sont donné les moyens d'avoir une politique de refoulement. Elle ajoute en plus, je cite, elle dit, sachant que la France a son passé, hein, avec le passé de la France, peut-elle se permettre d'être favorable au charter et au refoulement? À quel passé fait-elle référence exactement, Mme Givernet, dans les circonstances? Est-ce qu'elle est en train de nous dire à demi-mot que refuser l'immigration massive, c'est quelque chose comme 1939-45? Si oui, il faudrait quand même être un peu plus clair. Disons, autour de tout cela, l'Union européenne va-t-elle tomber? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'autour de la question de l'immigration, l'Union européenne révèle sa faiblesse structurelle, fondamentale. Je ne pense pas que chaque nation peut décider d'en sortir d'un coup. Hein, c'est le Frexit improvisé. Ce qui est certain, c'est que ces contradictions sont si nombreuses que chaque nation a tout intérêt quand même à se préparer au jour où cet ensemble improbable ne tiendrait plus.
Guillaume Bigot, pourquoi vous avez signé, vous, justement, cet appel dans Le Figaro?
D'abord parce que j'ai de la suite dans les idées. Ça fait plus de 20 ans que je poursuis de...
L'Union européenne,
d'une certaine façon, et ce projet...
Alors, donc je rappelle l'appel funeste de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vice fédéraliste.
Je vais vous dire, les gens ne se rendent pas compte du tout. Parce que la ruse de la raison européenne, c'est ce que j'appelle une dictature par l'ennui, par la bureaucratie. Comme c'est absolument soporifique, personne n'y s'y intéresse. Et c'est d'une certaine façon ce qu'ils veulent. Premier point. Deuxième point, les gens ne mesurent pas à quel point ce projet est une sorte de saut à l'élastique sans élastique ou une sorte de saut en parachute sans parachute. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de sortir de la démocratie, c'est très grave, parce que là, en fait, vous allez voter, mais en réalité, vous ne contrôlerez plus les gens pour qui vous allez voter. Votre vote sera complètement dissous D'accord, ce sera un 14e des votes européens. Donc la fin de la démocratie. On a juste décapité le peuple, on a décapité 1789. C'est pas grave, hein. Deuxième problème, on va sortir du cadre national. Ça fait quand même 1000 ans qu'il y a le pouvoir qui est à Paris et qu'il y a quelque chose qui s'est construit comme la France. Là, on va sortir de ça. Et troisième saut à l'élastique sans élastique, c'est encore plus fou que tout, c'est le saut dans le post-État. Post-démocratie, post-nation, post-État, c'est-à-dire on va faire un ensemble de bisounours ou d'herbivores, comme dit Hubert Védrine, alors qu'on est entouré par des vélociraptors. Et on va se mettre entre herbivores, entre nous, avec frontières ouvertes et tout va bien se passer.
Bon, les garçons, c'est du suicide. Non, mais vous êtes gentils avec le suicide.
C'est du suicide.
Tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que...
Alors, on prend nos billes.
Non, mais quelle est la solution aussi?
À tout le moins, les signataires sont assez clairs. Ils disent pour tout changement de traité demain, pour toute réforme des traités ou pour tout changement dans les traités, un référendum. Donc systématiser l'appel au peuple dans la fédéralisation de l'Europe ou dans la construction européenne. De ce point de vue, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de construction européenne sans détour populaire. Le drame, c'est que le peuple est devenu un détour, mais peut-être est-ce un détour nécessaire.
Bon, on va continuer avec les élections à venir avec vous, Guillaume Bigot. Les intentions de vote, on l'a vu aujourd'hui, hein, des électeurs musulmans, selon le dernier sondage Challenge, est de 36% pour Manon Aubry, LFI, 14% pour le PS Raphaël Glucksmann et 5% pour Jordan Bardella du Rassemblement National. Vous avez jusqu'au 3 mai, on ne le dit pas suffisamment souvent, pour vous inscrire. Voilà, sur les listes électorales, si vous voulez voter pour le 9 juin, nous sommes à un peu plus d'un mois du scrutin. Est-ce que le vote, première question, est-ce qu'il s'est cristallisé? Est-ce que là, ça y est, c'est figé? Rien ne peut plus bouger.
Ah ben non, on ne peut pas dire ça, parce que de toute façon, un scrutin, ce n'est pas la même chose qu'un sondage. C'est jamais la même chose qu'un sondage. Il y a toujours un écart. Écart, évidemment, plus ou moins important. Là, il y a au moins deux facteurs. C'est-à-dire que le premier facteur, c'est qu'il y a des dynamiques déjà qui sont à l'œuvre, qui explique que ça a déjà bougé ces dernières semaines, ces derniers jours, et donc je vois pas pourquoi les dynamiques elles s'arrêteraient, parce qu'on aurait décidé que ça s'arrête. Et ces dynamiques, c'est un peu des phénomènes de vase communicant, c'est le premier facteur. Vase communicant, le premier, ça a été souligné par tous les observateurs, c'est entre place publique, la liste de Raphaël Glucksmann, qui est à 12 points, en moyenne, si on agrège tous les sondages, et la liste Renew, qui est à 17 points. Et donc, phénomène de vase communicant, c'est-à-dire plus Glucksmann monte et plus Renew descend, et inversement. Demain, il va y avoir le discours Sorbonne 2, d'Emmanuel Macron, ce qui est aussi un moyen qu'on pourrait sous-titrer le discours « Sauver le soldat haillé ». Voilà. Bon. On va voir si ça a un effet ou pas. Ensuite, autre phénomène de vase communicant, la liste LR qui est à 8 et la liste Reconquête, si on agrège tous les sondages, qui est à 5-5. Donc on voit que là aussi, il y a des phénomènes de vase communicant. On pourrait rajouter la liste RN avec des phénomènes de vase communicant entre ces deux autres listes. Même chose pour les écologistes d'un côté, le PC de l'autre, le PC qui est quasiment sûr de ne pas passer la barre des 5 points à 2,5, et puis la liste LFI. Plus la liste de l'LFI est haute, et plus ça prend aux écolos, plus ça prend aux communistes, et inversement. Et ça peut encore bouger, donc, pour vous répondre. Et puis, il peut y avoir des événements. Le deuxième facteur, il est, mais c'est l'éléphant au milieu de la pièce, ça s'appelle l'abstention. Et mais c'est oui. Tout à fait corrélé à ce qu'a évoqué Mathieu, c'est-à-dire le fait que ce soit absolument soporifique, ces enjeux européens, et donc les gens ne vont pas voter. Et évidemment, ça intéresse d'abord les partisans de l'Europe. Parce que tous les partisans de l'Europe votent comme un seul homme pour les élections européennes. Les gens qui ne sont pas d'accord avec l'Europe, ils tendent à ne pas voter. Moi qui ne suis pas d'accord avec l'Europe, je dis qu'il faut voter. Il faut voter parce que si vous ne vous intéressez pas à l'Europe, pour paraphraser Trotsky, c'est l'Europe qui va s'intéresser à vous et déjà, ça a déjà commencé. Donc partout dans l'Union européenne, de toute façon, l'élection européenne, elle est avec une abstention très très haute. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a, on a été un peu en dessous de 50% en 2019. Mais là, les sondeurs disent qu'on pourrait être vers 55-56% d'abstention. Alors ça va avoir des effets absolument massifs, mais pas le même effet pour tous les partis. D'accord ? En fait, comme je vous l'ai déjà dit, plus vous êtes eurosceptique et votre parti est eurosceptique ou souverainiste, appelez ça comme vous voulez, et il y en a différentes couleurs, il y en a un peu pour tous les goûts, et grosso modo, plus cette abstention forte va avoir un effet de tasser votre score, et inversement. Ensuite, vous avez le facteur d'âge, qui est très important. Plus vos électeurs sont jeunes, et plus vous êtes concernés par l'abstention. Et plus, si vous réduisez l'abstention, vous allez augmenter votre score. Juste un indicateur comme ça, l'âge moyen des non-inscrits, par exemple, l'âge moyen des non-inscrits, 75-79 ans, 6% de non-inscrits. Pardon, le taux moyen, un peu de dyslexisme là, le taux moyen des 75-79 ans qui sont non-inscrits, 6%. Le taux moyen des 18-25 ans non-inscrits, 38%. Donc vous voyez, il y a un facteur d'âge. Il y a aussi le facteur de CSP. Et donc, plus vous avez des électeurs qui sont diplômés et âgés, et moins vous êtes concernés par l'abstention.
On va continuer à en parler, voir un peu, est-ce que chaque parti a le même rapport par rapport à l'abstention? Qui est-ce qui drague le plus les abstentionnistes? On en parle dans un instant. Charlotte Dornelas, préparez-vous parce que votre sujet est très attendu aussi ce soir. GPA, pas GPA, la haine, la loi. On parlera parce que le Parlement européen a voté justement à propos de la GPA. On parlera donc de ce tweet, 4 mots de Marion Maréchal qui a fait 6 millions de vues. On marque une pause, à tout de suite. On parlait pendant la pause publicitaire de la GPA. On va pas défleurer votre sujet, ma chère Charlotte. Où est la maman? 4 mots, 6 millions de vues. C'est le tweet de Marion Maréchal. On en parle dans un instant. Revenons sur les européennes, Guillaume Bigot. L'enjeu du scrutin est-il aussi fort pour tout les partis, et sont-ils tous mobilisés pour limiter l'abstention? Soyons clairs.
Oui.
Voilà, moi j'entends tout le temps le parti LFI dire oui, on vise les abstentionnistes. Je l'entends pas forcément des autres partis.
Ah ben c'est pas faux. C'est pas faux. J'ai mené ma petite enquête et je suis presque en mesure de corroborer ce que vous avancez. En fait, déjà, il me semble que l'enjeu du scrutin est très important. Il est très important parce que je vais pas revenir sur ce que j'avais écrit dans la tribune collective et ce que Mathieu a développé, c'est-à-dire il y a quand même ce projet de super-État. Bah, c'est juste se débarrasser de la République, hein, trois petits détails, hein, démocratie, trois petits détails. Bon, donc ça c'est quand même assez important, il y a une guerre en Europe et tout ça, mais si on revient sur le plan national, politiquement, on a quand même un long tunnel jusqu'aux élections de 2027. Autrement dit, c'est la seule élection. Moi, j'aime pas cette histoire de mi-mandat, parce que mi-mandat, c'est encore de l'américano-yardise, de copier des Américains pour tout. Mais c'est vrai que c'est le seul scrutin national avant 2027. Deuxième chose, eh bien, c'est un enjeu, en fait, pour tout le monde, je vais vous dire. Même pour ceux qui font la course en tête, et là, je pense au Rassemblement national de Jordan Bardella, qui est très en avance. Mais attention, ça va vraiment dépendre de l'abstention en réalité, du taux de participation. C'est-à-dire que ça va faire la différence entre une victoire et un triomphe. Il se peut que ce soit simplement une victoire. S'ils atteignent 25%, tout le monde va dire c'est un échec. 25% serait déjà le meilleur score du RN historique aux européennes. Mais évidemment, ce serait très décevant, ce serait une victoire en demi-teinte parce que ils attendent et tout le monde attend à ce qu'ils fassent la presse plus de 30% les sondages. Deuxièmement, pour Renew. Évidemment que l'enjeu est très lourd, parce que derrière, il y a le président de la République. Donc si la liste Renew est complètement, comme dirait mon fils, claquée au sol, voilà,
bah, écoutez... Il est très beau, votre fils, hein. C'est quoi son prénom, déjà?
Il est très beau, mais il a toujours des expressions, parfois... Théodore. Mais
Théodore. Très
il a des expressions, parfois, un peu de son époque. Donc, la vérité, c'est que ce sera la fin du mandat d'Emmanuel Macron. En réalité, ce sera un mandat... alors là, il aura vraiment du temps pour faire du commémoratif, inaugurer toutes les chrysanthèmes qu'il veut, etc. Là, il aura beaucoup de temps. Je pense qu'il y aura, effectivement, si la liste fait un flop, il n'aura plus tellement de pouvoir politique. Ensuite, il y a même un enjeu existentiel pour des partis qui ne pourront pas passer la barre des 5%. Pas de 5%, pas d'élus au Parlement européen, d'un côté, pas de remboursement de l'autre, et une dynamique à l'envers, si j'ose dire. Là, imaginez, par exemple, pour les écologistes qui se disent européens, qui adorent l'Europe, qui ont toujours fait un bon score aux européennes, il y a peu de chances. Mais enfin, s'ils n'atteignaient pas 5%, ce serait le début de la fin. Les Républicains, même chose, ancien parti de gouvernement, imaginez qu'ils n'atteignent pas de 5%, ce serait le début de la fin. C'est peu probable. Et puis, il y a Reconquête, dont le fondateur est bien connu et bien apprécié ici. Il y a un enjeu, tout de même, puisque en agrégeant les sondages, on est à 5-5. Donc, il y a des enjeux, à mon avis, pour tous les partis. Les enjeux sont assez lourds. Et le paradoxe, c'est qu'alors même que les enjeux sont très lourds pour tous les partis, bah, y a effectivement assez peu de partis qui sont très actifs. Moi, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et les campagnes des différents partis, de tous les partis, en me concentrant sur la question de qu'est-ce qu'ils ont comme message et quelle est l'efficacité de leur message pour essayer d'augmenter la participation, de faire inscrire les gens, notamment les jeunes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, l'enjeu est massif, hein, 10 millions de personnes sont pas inscrites ou mal inscrites, 7 millions de mal inscrits, 3 millions de pas inscrits sur les listes électorales, donc c'est un réservoir de voix colossal. Et en réalité, si on classe, j'ai un peu fait, comme vous savez, le guide Michelin là, de l'incitation électorale, j'ai fait des clics. Alors, soit c'est un clic, ça veut dire que vraiment ils sont très efficaces, puisqu'on est à un clic en consultant la propagande électorale de voter, de s'inscrire plutôt, et bien LFI sont de loin les plus efficaces. Ils ont créé leur propre interface, ils ont créé leur propre, avec un site onvoteinsoumis.fr, vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit ou non sur les listes électorales. Ils prennent les électeurs quasiment, et notamment les plus jeunes, par la main, alors un peu comme des bébés, hein, les bébés IFI, mais en même temps c'est assez efficace, et ils sont effectivement très dynamiques. On voit des campagnes de
de pub d'ailleurs assez agressives, qui sont un peu retournées contre eux d'ailleurs, avec les riches, les golfeurs, les racistes, je ne sais pas quoi, aucun rapport entre les riches, les golfeurs, les racistes, mais passons, à part dans l'esprit apparemment de LFI, tous ces gens-là votent, et vous, point d'interrogation, dit LFI. Donc on voit qu'ils sont très énervés. Le RN vient après, je remettrai deux clics, pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même fait un mini tuto sur TikTok, ils ont quand même un message, mais c'est quand même moins énergique. Et puis ensuite, vous avez LR et Reconquête, c'est pas complètement absent leur propagande, mais c'est pas très important. Reconquête a fait un slogan, ne restez pas sans voix, qui est plutôt un bon slogan, ils le poussent pas énormément. LR, ils sont vraiment, on sent aussi l'effet d'âge, hein, on est plutôt sur les procurations, donner une procuration à votre voisin pour votre résidence secondaire. Bon, on a sinon tous les autres partis, alors là on est à 4 clics, hein. C'est-à-dire que là, il se passe juste rien, pas de son, pas d'image, pour favoriser l'inscription, les procurations, etc. Voilà. Et quand on entend le gouvernement qui dit ah, il faut voter, le civisme, etc., bah écoutez, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein.
Quand vous dites très apprécié ici, apprécié, on ne parle pas des idées politiques.
Ah, pas du tout.
Non, je tiens juste
à le rappeler. Non, mais apprécié parce qu'il y a un canal historique de Face à l'info.
Il y a un canal historique, mais on ne parle pas des idées politiques.
Non.
Du tout pour qui chacun de
vous de la table à voter. Chacun veut, évidemment.
Peut-être qu'on s'abstient.
Comment ?
Oui. On a même le droit d'être.
Non, moi je vote. Je vote.
Oui.
Alors, justement, Guillaume Bigot, est-ce que LFI n'en fait pas trop et ne verse pas dans le clientélisme, selon vous ?
Si. Disons que le clientélisme, c'est un peu différent. On ne va pas faire de se lancer dans des définitions théoriques, mais dans l'électoralisme, il y a toujours une dimension un peu de démagogie. Vous incitez les gens à voter, forcément, vous flattez un peu l'électorat, etc. Le clientélisme, c'est autre chose. C'est une espèce de segmentation un peu marketing. Vous adressez à telle ou telle catégorie en faisant croire qu'en votant, eh bien, vous allez résoudre des problèmes d'un tel ou d'un tel et finalement en devenant un peu les otages de votre clientèle. Voilà. Et en fait, on voit bien que LFI sont complètement tombés là-dedans. Ils sont tombés là-dedans sur le thème du communautarisme, c'est évident, avec la fameuse Rima Hassan, maintenant la militante pro-palestinienne, qui est en 7e position sur leur liste. Alors, ils sont pas les seuls à faire du communautarisme, et y compris du communautarisme et des clins d'œil à l'électorat musulman. On le voit quasiment dans tous les partis, hein, même certains partis de droite qu'on ne citera pas, parce que ça se joue dans les municipales parfois quelques centaines ou quelques dizaines de voix. Donc, la tentation est forte d'aller voir telle ou telle communauté qui peut par grappe amener des électeurs. Mais il n'y a que LFI qui a un intérêt à le faire à l'échelle nationale. Parce que là, c'est une élection nationale, il faut le rappeler, proportionnelle nationale. Et comme vous le disiez avec le sondage Harris, eh bien, il capte déjà, ça se sait, une grosse partie de l'électorat musulman, 36%, et je crois que même c'est 38% des électeurs musulmans qui s'apprêtent à voter pour la France insoumise. Et donc, on voit bien que cet investissement dans la cause palestinienne, c'est un énorme clin d'œil à cet électorat. Mais c'est aussi un moyen en même temps de capter non pas tous les damnés de la terre mais de capter tous les hébétés de la terre, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire les woke, les gauchistes, etc., qui à chaque fois qu'il y a des polémiques au sujet de cet investissement, de surinvestissement, parce qu'on ne comprend pas très bien quel rapport entre Gaza et les Européennes, enfin apparemment eux le voient, et donc ils montrent comme ça qu'ils sont le parti hors système et qu'ils créent des polémiques qui ne sont pas dénuées d'ailleurs d'arrière-pensées antisémites. Et enfin, eh bien, tout le monde essaye de jouer la carte sectorielle, notamment avec les agriculteurs, hein, Renew, avec Mme Hayé, qui ne perd jamais une occasion de dire que c'est une fille d'agriculteur. Mme Imar, qui est aussi sur la liste des LR. Mais en réalité, personne n'arrive à la hauteur de M. Boyard, qui lui passe son temps à dire aux stagiaires qui ont exactement 18 ans cette année et qui ne sont pas payés, contactez-moi comme ça, on va faire une pierre deux coups. Je vais vous régler votre problème et en même temps, on va vous inscrire sur la liste électorale, sous-entendu. Donc eux, ils vont vraiment dans une démagogie tous azimuts. Leur programme, pour conclure, c'est tout changé avec 485 mesures, je vous épargne 485 mesures, c'est la samaritaine de la démagogie et de l'électoralisme.
Merci pour votre regard, Guillaume Bigot. Aujourd'hui, 24 avril, il y a 109 ans, juste une pensée quand même pour l'extermination des Arméniens par les Turcs. Triste jour de commémoration aujourd'hui. Je voulais quand même dire un petit mot, pensée aux Arméniens. Marc Menon, non au séparatisme dans le sport. Le préfet de l'Hérault a décidé de retirer l'agrément du club de foot amateur 7 Olympic Football Club, puisqu'il arborait le croissant et l'étoile de l'islam sur son logo. Le logo a changé en juin dernier, mais certains crient au racisme d'État. Que penser ?
C'est terrifiant. Alors, n'oublions pas non plus que, tout à fait par hasard, le maillot est vert. Ça vous dit rien, maillot vert ? Aztèque. Ben non, mais l'islam, c'est quand même... voilà.
Oui. L'Irlande.
Oui, c'est l'Irlande, oui, bien sûr.
J'aime bien moi pastèque.
Alors, chacun ses obsessions.
Oui, chacun ses obsessions.
C'est un tout petit club, de rien du tout. Il est en deuxième division régionale. Il y a 67 adhérents. Il a été créé par Christian Dimiglio, qui est à la fois le président, le secrétaire général, le trésorier. Et il y a un président d'honneur, Ali Bello. Le club apparaît en 2016. Il demande à une adhésion à la Fédération de football qui lui donne l'autorisation. Il y a actuellement 67 licenciés qui jouent. Ce ne sont que des hommes. Et le préfet de l'Hérault, suite à une visite des instances sportives au mois de juin l'année dernière, a remarqué cette non-conformité de neutralité que l'on exige de la part des sportifs, donc la couleur du maillot, mais ça on n'en parle même pas, on dit bon il est vert, c'est tout à fait un hasard, mais surtout la lune et l'étoile, ça a disparu. En revanche, ce qui a été mis en exergue, c'est le fait que ce club n'avait pas de section féminine. Alors quand on reproche ça au président, M. Dimiglio, il dit bah forcément, vous vous imaginez la difficulté relationnelle entre les femmes et les hommes. Bah oui, forcément, elles sont tentatrices sans doute. Et par conséquent, il n'est pas question d'avoir une section féminine. Il dit de toute façon, il faudrait qu'il y ait des candidates et il n'y en a pas. Voilà, fermez le banc. Le préfet de l'Hérault ne s'est pas laissé prendre au piège. Par conséquent, il a pris la décision de fermer le club et la ville de Sète l'a suivi. Par conséquent, le club se retrouve hors championnat dès cette semaine et théoriquement, il n'aura même plus accès au stade de Mailleul sur lequel il s'entraînait. Alors tout ça, on peut dire, mais c'est démesuré, un club rikiki, 67 licenciés, pourquoi faire une chronique là-dessus? Ben parce que c'est l'entrisme dans le sport. C'est quelque chose qui est mis en évidence depuis très longtemps. Encore l'année dernière, au mois de juin, que s'est-il passé? Ça ne vous a dit rien? Les jeunes femmes qui étaient habillées avec leur hijab et qui prétendaient pouvoir jouer de cette manière au football. Elles ont formé une sorte de club de pression et le Conseil d'État a été alerté par le président de la Fédération, Philippe Diolo, et on est arrivé au résultat ce comportement n'était pas conforme à la naturalité du sport et donc elles n'ont pas obtenu gain de cause. Mais souvenez-vous, il y a deux jours, je vous ai parlé de ce qui se passait dans l'industrie. Dès 1982, avec la grève chez Citroën, où on réclamait, alors que c'était déjà pratiqué, mais dans le silence, on pratiquait la prière plusieurs fois par jour sur les chaînes. Et on a exigé d'avoir un coin de prière. Eh bien, quand on regarde l'historique du football, il y avait le président de la Ligue, Frédéric Thiriez, qui, en 2015-2016, faisait remarquer qu'il y avait de plus en plus de tentatives de création de petits clubs comme ça, qui étaient des petits clubs religieux et qui entendaient vivre selon les coutumes religieuses et non plus selon les règles sportives. C'est ce qui se passe aussi dans les clubs de judo où les enfants, je l'ai déjà dit ici, refusent de saluer car on ne salue que Allah. Et cette détérioration de cet esprit sportif qui est dramatique conduit donc aujourd'hui à une sorte d'ostracisme et pour autant, ça permet de justifier l'exclusion des femmes en disant « mais c'est parce qu'on ne leur permet pas de vivre selon leur religion sur le terrain qu'elles ne peuvent pas pratiquer le sport ». Vous vous rendez compte? Là encore, le principe d'inversion. Et alors, M. Thiriez, il faisait remarquer à l'époque, dans les propos qu'il tenait au journal Le Figaro, il disait « mais il y a des jeunes femmes à travers le monde ». qui se battent et qui sont menacés de mort pour avoir simplement le droit de courir. Il faisait allusion, entre autres, à cette sportive magnifique qui a été la première à obtenir une médaille d'or en athlétisme pour l'Algérie, Absila Boulmekta, médaille d'or du 1500 mètres en 1992, qui a eu des menaces de mort parce qu'elle refusait de se conformer aux exigences. Et n'oubliez pas ce qui se passait en Algérie en 1992. C'est véritablement de l'héroïsme. Et il citait aussi les lionnes de l'Atlas au Maroc, ou les fennecs au féminisme, les aigles de Carthage, toutes ces femmes disent, nous voulons pratiquer le sport en liberté, ne pas avoir l'handicap d'être dans l'enfermement de l'étoffe, du tissu, ou disons qu'on veut de l'étoffe, du sport, et sans avoir à subir le tissu. C'est formidable tout ça. Il disait, eh bien on ne tient pas compte de cela et du préjudice que l'on crée pour ces femmes-là. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est une dame qui a été un peu oubliée parce qu'elle n'avait pas de grands résultats, elle s'appelait Aravan Rezal. Elle jouait au tennis, elle était d'origine franco-iranienne. Et elle a dit, il y a une Indienne qui est musulmane, elle est obligée de porter, enfin elle porte la petite jupette, mais les autorités musulmanes estiment que c'est un scandale. Eh bien je me battrai pour que demain les règles évoluent. Voilà comment tout à petit, que ce soit dans l'industrie comme on l'a évoqué il y a trois jours, comment dans le sport, il y a cette infiltration pernicieuse et qui fait que l'on oublie ce que sont les valeurs les plus profondes et en particulier, si on reste dans le sport, l'article 51 de la Charte olympique qui écrit en très clair il ne doit pas y avoir la moindre manifestation religieuse ou politique, que ce soit dans les tenues vestimentaires ou dans les tenues des athlètes.
D'ailleurs, même sur les affiches des JO, on enlève la croix. C'est dire. Alors, c'est intéressant parce que il y a, je disais que l'arrêté du préfet a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier. Une audience publique se tiendra le 16 mai prochain. Et c'est intéressant de voir que tout le monde dénonce cet entrisme dans le sport. Et de notre côté, lorsque l'État prend des décisions, on crie au racisme d'État. Bon, merci en tout cas Marc pour ce regard. Mathieu Bocoté, préparez-vous dans un instant, vous allez nous faire rêver d'un excédent budgétaire en France. Est-ce possible? En prenant l'exemple de l'Argentine, je ne sais pas si c'est...
On peut le mondial rêver. Est bien choisi.
On en parle dans un instant. D'abord Charlotte Dornelas. On va parler, avant de parler d'ailleurs des quatre mots de Marion Maréchal sur la GPA, où est la maman? D'abord, regardons l'actualité sur ce sujet, sur la GPA, puisque hier, le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur la lutte contre la traite des humains en y incluant la GPA. François-Xavier Bellamy, à l'origine de l'amendement en question, parle d'une victoire. De quoi s'agit-il? Ensuite, on parle de Marion Maréchal.
Alors, François-Xavier Bellamy, quand il avait été élu la dernière fois, il était déjà tête de liste des LR, ce qu'il est à nouveau cette fois-ci, c'était un engagement de sa campagne de porter l'interdiction de la GPA au niveau européen. Alors, c'était 2 ans de combat parce que pour la première fois, la GPA est inscrite dans un texte qui est contraignant dans l'Union européenne. Vous savez, il y a des résolutions, il y a des textes qui sont adoptés par le Parlement et qui ne contraignent absolument pas. Là, en l'occurrence, c'est une directive qui est donc passée par le Conseil, la Commission et revotée par le Parlement. Et c'est donc contraignant, ça s'impose aux États membres. Donc c'est ça la nouveauté, on va dire. Et en effet, l'amendement déposé par François-Xavier Bellamy qui veut inscrire la gestation pour autrui dans la liste minimale, on va dire, des traites d'êtres humains, de ce qui est considéré comme des traites d'êtres humains, a été adopté par cet article, je vous le lis. Il convient d'inclure l'exploitation de la GPA, du mariage forcé ou de l'adoption illégale dans les formes d'exploitation visées dans la dite directive, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis, y compris le critère des moyens. Alors, je précise tout de suite, parce que certains ont dit « Ah ben, ça prouve bien que jusqu'à maintenant, l'Union européenne était favorable à la GPA ». Non, elle n'était pas favorable non plus au mariage forcé. Simplement que les questions arrivent et se posent à l'Union européenne, comme elles se posent à la société française. Et il y a 15 ans, personne n'aurait pensé... Enfin, si, 15 ans, c'est précisément le moment où ça a été pensé. Mais il y a 25 ans, personne n'aurait pensé à interdire la GPA pour la bonne et simple raison que la question ne se posait pas. Donc là, elle se pose et c'est la raison pour laquelle elle est ajoutée. à noter une chose assez particulière, c'est que François-Xavier Bellamy, ce texte était porté par deux rapporteurs qui étaient des femmes positionnées à l'extrême-gauche, qui ont immédiatement soutenu l'amendement. Et par ailleurs, au Conseil de l'Europe, qui était à l'époque dirigé par le gouvernement socialiste espagnol, qui a également soutenu cet amendement. Vous voyez, l'opposition à la GPA est assez également distribuée. La véritable opposition qu'a trouvé François-Xavier Bellamy au sein de l'Union européenne, c'est... ce sont les centristes et notamment la Macronie en ce qui concerne la liste Renew, quoi, et les Verts qui décidément ont une conception de la nature qui nous échappe à chaque fois qu'on parle de ça, mais ça c'est un autre problème. Il y avait déjà eu des dispositions qui avaient été prises par le Parlement européen, je vous le disais, à plusieurs reprises, notamment au moment de la guerre en Ukraine, parce que vous savez qu'il y avait plusieurs mères porteuses en Ukraine, elles n'ont jamais été contraignantes. Désormais, les États membres ont 2 ans pour se conformer à cette directive. Alors, le point important, c'est qu'il y a eu un débat qui a été initié au sein du Parlement entre GPA, GPA altruiste, GPA éthique. Vous savez, est-ce qu'il y a de l'argent en jeu ou pas? Le débat a été tranché. Le Parlement a décidé de ne faire aucune différence entre ces gestations pour autrui. Donc, c'est le principe même qui est posé comme participant de la traite des êtres humains. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que c'est toujours très compliqué, vous savez, tous les textes européens, il faut arriver au consensus. Donc forcément, vous ajoutez un peu pour avoir le consensus final. La formule, et c'est François-Xavier Bellamy parle d'une formule assez frustrante dans l'État, parce qu'elle est assez alambiquée, elle évoque la GPA à des fins d'exploitation reproductive. Donc on ne sait pas très bien quand ça pourrait être pas à des fins d'exploitation reproductive, ça n'est pas précisé. Donc, quelle marge dans l'application, l'avenir le dira. Et par ailleurs, dans l'exposé des motifs, c'est pas directement la directive, mais dans l'exposé des motifs, il y a 2 précisions. La directive cible les personnes qui forcent les femmes ou qui les amènent à agir par la ruse. Donc, où commence le fait de faire agir par la ruse quand on sait que la plupart du temps, c'est de l'argent quand même qui est en jeu et dans la plupart des pays où ça se passe. Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant a été sorti de cette directive de la GPA. La réserve ne s'applique pas pour l'enfant à qui c'est dans tous les cas imposé, ça c'est une certitude. Et par ailleurs, les règles sont, je cite, sans préjudice des règles nationales en matière de gestation pour autrui, sans autre précision. C'est important, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il parle des pays qui vont plus loin que cette directive ou de ceux qui aujourd'hui au sein de l'Union européenne autorisent la gestation pour autrui, puisqu'il y en a. Donc on ne sait pas exactement à qui ça s'adresse. Donc vous voyez, dans l'application, dans le droit national, on ne sait pas très bien comment ça va être pris. La seule chose, c'est que le principe est adopté dans un texte qui est contraignant. Donc là, il y a un changement de pied juridique dans les débats à venir. Il y en a un qui va arriver bientôt. En décembre dernier, le Parlement a adopté un certificat européen de parentalité. Hein, Orwell, que Mathieu aime bien, adorerait ce titre, je pense. Quelle que soit, je cite, la manière dont l'enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l'enfant. Donc ce certificat européen de parentalité a été adopté par le Parlement. Il va devoir passer ce trilogue entre la Commission et le Conseil, pardon. Et donc, à ce moment-là, se posera la question, est-ce que les mêmes autorités européennes qui viennent de criminaliser la cause vont légaliser la conséquence? C'est quand même ça qu'il se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi les opposants à la bataille, François-Xavier Bellamy, mais aussi la déclaration de Casablanca, qui regroupe beaucoup de gens qui se battent pour l'abolition internationale de la GPA, explique que le combat n'est pas terminé, mais c'est une première étape qui est quand même juridiquement extrêmement importante. C'est une première, en tout cas, au sein des instances européennes.
Alors, très intéressant tout ça, alors qu'on sait qu'évidemment, on connaît tous, j'exagère peut-être un peu, de gens qui ont utilisé la GPA.
En tout cas, quand on lit les journaux, ça ne nous a pas échappé. Oui.
Non, mais c'est vrai, alors que, bon, c'est interdit, mais c'est plutôt toléré, on va dire, on va avoir ça avec vous. En France, elle est interdite, mais cependant pratiquée donc régulièrement et depuis de nombreuses années. Marion Maréchal a déclenché une polémique en écrivant un tweet dans lequel elle demande « Où est la maman ?» d'un enfant né de GPA. Qu'est-ce qui a choqué concrètement?
C'est une bonne illustration, cette polémique, une bonne illustration de notre schizophrénie sur le sujet en réalité. C'est-à-dire qu'on discute d'un principe de manière absolument abstraite et quand se pose le cas individuel, nous ne sommes plus capables de nous écarter du cas individuel pour continuer à penser le principe. Donc la discussion est impossible. Et c'est le cas de plus en plus sur tous les sujets bioéthiques sur lesquels on ne supporte pas le désaccord parce que le seul désaccord serait déjà une insulte à la personne qu'on a en face de soi. Mais si vous raisonnez à l'échelle de la loi qui nous concerne tous, à partir de cas particuliers, vous légalisez absolument tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a plus de loi commune. Et le principe individualiste sur le terrain de la loi fracture totalement un pays. Si nous n'avons plus aucune conception commune de ce qu'est la loi... par ailleurs, avec des cas particuliers, vous pouvez légaliser tout et le contraire de tout. Donc, ce n'est pas un principe de réflexion, ce qui ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord. Le principe de réflexion devrait pouvoir être possible. Or, à l'origine, il y a l'annonce par deux hommes, en l'occurrence, de la naissance de jumeaux. Ils ont posté une photo expliquant voilà, que l'on voit là.
Deux petites filles.
Voilà, deux petites filles. Mmh. Et Marion Maréchal réagit en écrivant « Où est la maman ?» manière d'interroger sur la manière dont ces enfants ont été conçus et en l'occurrence créés par ces deux hommes. Et donc la manière de poser la question, est-ce que c'est par GPA ou pas, puisque la pratique est interdite. Et immédiatement, vous avez plusieurs anciens ministres macronistes qui ont réagi de manière extrêmement virulente. Hein, par ailleurs, on a Yann Brossa qui nous a dit il faut toujours mieux avoir deux papas que Marion Maréchal comme maman. Alors là, on me dit oui, les attaques sont personnelles. Alors là, je ne sais pas dans quelle ampleur ça va. Et on a également la porte-parole du gouvernement qui a réagi en parlant d'homophobie immédiatement. La question où est la maman et de haine, évidemment. Et on note quand même la première chose, c'est que personne n'a semblé utile de rappeler, personne parmi ces gens-là, que la pratique est interdite en France. Et que donc, si cet enfant a été eu par GPA en France, c'est donc qu'ils contreviennent à la loi. Donc moi, je ne sais pas très bien à quel moment il faut comprendre que le porte-parole du gouvernement est en train d'attaquer un opposant politique qui appelle au respect de la loi. Parce que c'est quand même ça, en l'occurrence, qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. Ça n'est pas la première fois que la pratique est très clairement présentée de manière extrêmement positive dans la presse. On l'a vu assez régulièrement et avec fierté sur les réseaux sociaux. Donc, contrevenir à la loi, en l'occurrence, c'est une manière aussi de vouloir la faire évoluer. Puisque ensuite, l'argument majoritaire de ceux qui veulent imposer la GPA, c'est de dire « mais les cas existent, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Mais les cas existent, ce n'est pas non plus un argument de fond. Il y a des cas qui existent pour des choses qu'on ne légalisera jamais aussi. Alors que disent par ailleurs ces ministres, ces anciens ministres, cette porte-parole du gouvernement de la directive adoptée hier par le Parlement européen ? Parce que si la GPA, quelle que soit la manière dont elle est faite, relève de la traite d'êtres humains, moi, je suis un peu perdue. Je ne sais pas très bien où est l'horreur, en fait, dans la pratique elle-même, dans le fait de la dénoncer, dans le fait de l'interroger. Je ne sais pas, je suis un peu perdue. Donc, j'aimerais bien savoir quel est le qualificatif pour la directive adoptée très largement par le Parlement hier. Et par ailleurs, ces mêmes ministres, évidemment, n'avaient pas moufté quand Emmanuel Macron lui-même avait tweeté en 2017, je cite, « Pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. » Mot que Marion Maréchal a repris pour sa défense ces dernières heures. Donc une question demeure. Seul le droit individuel est aujourd'hui brandi pour s'indigner de toutes parts, sans que jamais le recours à une pratique illégale et l'interrogation de cette pratique. On pourrait se dire, on peut avoir un débat, on l'a déjà assez régulièrement, pour savoir est-ce qu'il faut passer de l'illégalité à la légalité. Mais là, en l'occurrence, c'est illégal, mais c'est interdit de la critiquer aussi. C'est assez original. Et en l'occurrence, je précise à tous ces macronistes que évoquer d'un côté une traite d'êtres humains, ce qui relève de la traite d'êtres humains, ou de l'autre une question d'éthique et de dignité, comme l'avait dit le président de la République, est autrement plus lourd dans le débat que d'interroger ces deux papas pour savoir où est la maman de cet enfant, me semble-t-il. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent.
C'est vrai, pourquoi ils ne mettent pas le sujet clairement sur la table ? Alors, si elle est accusée, Charlotte Dornelas, d'homophobie, c'est parce que les deux pères de ces enfants sont homosexuels et qu'ils revendiquent le droit à avoir cet enfant.
Alors d'abord, l'opposition à la GPA, elle est pour tous. Les gens qui sont opposés à la GPA le sont pour tous. Il y a énormément de couples hommes-femmes qui ont recours à la GPA. Je parlais de l'Ukraine, on l'avait vu au début de la guerre en Ukraine.
Bien sûr.
C'est important de noter que l'opposition à la GPA...
Du utérus aussi.
C'est ça. Se fait absolument pour tous. En l'occurrence, deux sujets s'ajoutent à la question de la GPA, là en l'occurrence, c'est la question de la filiation, de l'altérité dans l'éducation des enfants, plus... la GPA, donc qu'on a évoqué. C'est en réalité, cette réaction, elle est très révélatrice de deux choses. Un, la GPA, dans la manière dont nous avons conçu le débat ces dernières années, est une suite logique, contrairement à ce que disaient les défenseurs du mariage pour tous et de l'adoption à l'époque. Pourquoi ? Parce que le mariage, en termes de contrat civil dans la société, est conçu non pas pour reconnaître l'amour entre deux personnes, mais pour contractualiser le lien entre deux personnes parce qu'ils vont créer une famille, avoir des enfants et donc parce que c'est l'avenir du pays. C'est pas, on reconnaît pas l'amour dans le contrat de mariage civil, hein, évidemment. Donc, à partir du moment où vous ouvrez le mariage pour tous et l'adoption sur une base d'égalité, alors la suite est extrêmement logique. Si le mariage doit être le même entre tous pour une raison d'égalité entre les personnes et non pas entre les couples, si vous partez de ce principe-là et que vous ouvrez l'adoption, que donc la question de la filiation n'est plus liée à la manière naturelle dont vous avez un enfant, mais au désir d'enfant qui devient un droit, alors vous ouvrez la PMA, ce qu'on a fait il y a quelques années, à deux femmes ou aux femmes seules. Et ensuite, c'est simplement une question d'égalité, puisque tout s'est fait sur le terrain de l'égalité. Pour une question d'égalité, qu'est-ce que vous répondez à deux hommes qui veulent un enfant ? Donc c'était une suite extrêmement logique, mais comme d'habitude sur le terrain bioéthique, on nous a expliqué que c'était, on surfait sur la peur, la haine, et qu'on imaginait n'importe quoi quand on le disait il y a quelques années. Et par ailleurs, il y a évidemment une hypocrisie qui est celle de voir une acceptation pour mieux vouloir la reconnaissance de la GPA, précisément sur des cas individuels. Contrairement à des personnes qui aujourd'hui souffrent d'être nées par GPA, il en existe et elles n'ont absolument aucune visibilité dans le débat. Elles souffrent de quoi ? Pas de parents qui sont incapables d'aimer, pas de parents qui sont incapables d'être parents, pas de parents qui sont incapables de donner une bonne éducation. Elles souffrent, un, du contrat qui est à la base de leur existence, donc de l'argent qu'elles ont coûté initialement, et du manque d'altérité dans leur construction. C'est des questions qui, me semble-t-il, dans un débat entre adultes, devraient pouvoir être posées. La deuxième question, c'est qu'il devrait aussi pouvoir être possible de poser la question sérieusement de la légitimité de cette pratique. En l'occurrence, on parle d'enfants qui ne préexistent pas à la volonté de les avoir. Il y a un contrat qui est signé avant même que les enfants existe et soit conçu. Ça n'est pas rien que ce soit d'abord une transaction financière. Et par ailleurs, le désir ne se transforme pas automatiquement en droit. Pourquoi ? Par exemple, pour l'adoption, il y a des critères d'adoption. Et il y a des gens qui sont capables et d'aimer et d'éduquer correctement qui ne correspondent pas à ces critères. C'est donc bien que pour le mieux de l'enfant, il y a des critères à respecter. La question de l'altérité, me semble-t-il, dans la construction de ces enfants, dans une société qui se pose la question depuis une semaine de savoir où sont les pères, je pense qu'on pourrait se poser la question de savoir s'il est important pour un enfant d'avoir une mère.
Merci beaucoup pour cette brillante démonstration, Charlotte Dornelas. C'est vrai que tout est mélangé dans cette polémique. Vous avez essayé de trier le grain de livret. Merci infiniment. Direction l'Argentine, Mathieu Bock-Côté, puisque Javier Milei, est-ce qu'il sera en train de surprendre ceux qui annonçaient son effondrement ? Rappelons qu'il est arrivé en décembre au pouvoir. Pour la première fois depuis 2008, il vient de présenter un surplus budgétaire, ce qui laisse croire à ceux qui voulaient le prendre pour modèle qu'il a gagné son pari. Et surtout, est-ce que la France peut en tirer quelques petites leçons d'euro ?
Alors, la première chose à noter, c'est que le personnage tend à écraser sa politique. Faut juste voir, c'est-à-dire qu'on est devant un personnage, donc sa force vient de son charisme très singulier, et sa faiblesse vient du fait qu'on se dit, bon, on aime ou non le personnage, et on ne s'intéresse pas à la politique. Là, il y a des premiers résultats. Des résultats qui sont obtenus très difficilement, ça vaut la peine de le dire. Donc, il a réussi en coupant, en stoppant, par exemple, les travaux publics, des coupes budgétaires significatives dans à peu près tout, le licenciement de fonctionnaires, la fermeture d'administration, la réduction des subventions. Donc, il a vraiment coupé, coupé et coupé. Pourquoi ? Dans un contexte aussi d'inflation, il dit qu'il faut limiter l'inflation et tout ça. Donc, il dit qu'il faut des gestes d'une certaine brutalité pour être capable de remettre un peu d'ordre dans l'économie de son pays. Sur le plan des finances publiques, c'est une réussite. C'est-à-dire, ensuite, je ne dis pas que c'est une réussite dans l'ensemble, mais il a été capable de dégager un surplus budgétaire, ce dont l'Argentine n'était plus capable depuis 2008, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est la première chose à noter sur lui. Ensuite, si on veut tirer une première réflexion plus générale, il y a de l'opposition en passant, il y a beaucoup d'opposition. Des gens disent « vous saccagez le pays, vous saccagez le modèle social ».
Et là, lui était dans la rue en plus.
Mais lui répond « tout était déjà saccagé ». Bon, gardons ça à l'esprit. Je pense qu'on peut en tirer une première leçon plus politique dans les circonstances. c'est qu'on ne sort pas du socialisme doux. Alors, le mot socialisme, on n'en a plus l'habitude parce que c'était l'URSS, ainsi de suite. Mais il y a une part de socialisme que les sociétés occidentales ont véritablement accepté depuis un siècle. Et le fait est que ce socialisme a des effets de dérèglement de société. Surbureaucratisation, surfiscalisation, logique de l'assistanat. Ça fait en sorte que de plus en plus de pans de la population dépendent des subventions publiques et ne peuvent pas exister sans ces subventions publiques. Ça fait en sorte que de plus en plus de groupes réussissent à tenir en otage la société en disant « Si vous ne nous subventionnez pas, on vous flanque une grève. » On va y revenir dans un instant. « Si vous ne nous subventionnez pas, on décide de faire des contestations sociales. » Donc le socialisme crée un effet d'engourdissement dans les sociétés, crée un effet d'une logique d'assistanat, transforme le citoyen en quémandeur de l'argent des autres. Donc ayant tout ça à l'esprit, on ne sort pas du socialisme sans douleur. Pour que je n'en sortir. Si on veut y rester, c'est autre chose. C'est ce qu'on pourrait appeler le devenir yougoslave des sociétés qu'ils subissent. La médiocrité pour tous, mais tout le monde aura son petit bout de pain. Mais n'espérons pas davantage. Est-ce que toutes les sociétés qui, à partir d'un certain degré de fiscalisation, à partir d'un certain degré de bureaucratie, si elles veulent en sortir, elles sont condamnées à en sortir dans la douleur, c'est la première leçon qu'on peut retenir de ce président, par ailleurs, quelque peu iconoclaste. Y a-t-il des leçons à tirer pour la France? C'est peut-être autre chose.
Alors justement, allons-y. Quelle réflexion française peut-on tirer de ce qui se passe en Argentine pour nous?
Un événement très pratique, c'est à la SNCF. C'est assez intéressant. C'était mentionné aujourd'hui par différentes chaînes, Le Figaro, tout ça, des politiques aussi, qui notaient que globalement, pour compenser la politique, la réforme des retraites du gouvernement, qui était vécue par certains comme une violation des droits de l'homme, vous savez, présenter tout malheur qui vous arrive comme une violation des droits de l'homme, vous aurez de l'argent. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. La SNCF, donc, elle va payer la retraite anticipée des cheminots pour annuler l'effet de la réforme des retraites. On s'entend, tout ça, c'est de l'argent public. Pourquoi la SNCF accepte de payer dans des circonstances? Parce qu'il y a eu des menaces. On va faire des grèves pendant les ponts de mai. Il y aura des grèves au moment des JO. On va faire grève, grève et regrève. Alors, dès lors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de payer, on casque, on donne l'argent des contribuables. L'argent public n'existe pas. C'est de l'argent privé confisqué. Yes. De ce point de vue, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est un autre exemple de socialisme appliqué à la française, un peu.
Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci à Guillaume, Marc, Charlotte. Excellente suite de programme. L'heure des Pro 2.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.